ce qui m'inspire le plus chez quelqu'un, c'est pas tant selon le niveau qu'il atteint, c'est d'où il part. Dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir le potentiel de pouvoir faire tout ce que je veux. Qu'à chaque fois dans les médias, on va voir pendant un coup de projecteur le jour où la personne elle a réussi. C'est juste du délire, parce qu'en fait, il y a plein de moments où t'es nul à l'entraînement. Tant que t'auras pas changé ton mindset à t'entraîner pour gagner des compètes, tu gagneras pas des compètes. Cette démarche de haut niveau, moi je l'ai appliquée à un sport, mais j'ai dit mais en fait ça s'applique à tout et n'importe quoi. Et si ma nouvelle médaille olympique c'était bah, ma vie, donc tout compris. Et ça a complètement changé mon approche.
Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien, je suis avec Benjamin, il fait partie du programme Titanium, il est champion olympique, le premier de son pays, il va être avec nous, on va voir ensemble comment appliquer les clés d'un sportif de haut niveau à tous les domaines de ta vie. Donc par exemple la carrière, le couple, les relations, ton bien-être, on va voir que être un sportif olympique, c'est suivre une méthode bien particulière et que ça s'applique pour toi. Suis bien l'interview. Benjamin, en tout cas, je suis vraiment content que tu sois là. Je le dis souvent, j'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs de haut niveau. L'engagement que ça demande, la détermination que ça demande. Et ce que j'aime, c'est pour ça d'ailleurs que Fred Bousquet, je l'avais fait venir au séminaire, c'est que les clés pour devenir au top dans son sport, en fait, elles s'appliquent à plein de choses. Elles peuvent s'appliquer dans nos relations, pour notre business, pour notre alimentation. Et donc voilà, ça m'intéresse de voir c'est quoi pour toi être un sportif de haut niveau. Donc si tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais Benjamin, ce que tu as fait et puis on verra après ta transition.
Donc Benjamin, j'étais athlète de haut niveau, j'ai commencé le kayak slalom, enfin le kayak au départ à l'âge d'une dizaine d'années, enfin 10 ans en Seine-et-Marne, en région parisienne. J'ai fait du kayak jusqu'en 2012 et donc au milieu j'ai progressé, je suis parti à Toulouse juste après mon bac, donc à 18-19 ans.
À ce moment-là, t'as le rêve de devenir un...
Non, pas vraiment.
C'est juste tu t'éclates quoi.
Ouais. Je vais te raconter après comment,
okay,
comment ça s'est construit. Donc j'arrive à Toulouse et donc jusqu'en 2012 j'ai fait du kayak. J'ai fait 3 fois les Jeux Olympiques, une fois à Athènes, une fois à Pékin, une fois à Londres.
Okay.
Et je suis médaillé de bronze à Pékin et finaliste à Londres.
Sachant que tu es le premier médaillé de ton pays d'origine.
Ouais, premier médaillé et encore l'unique médaillé olympique de l'histoire du Togo.
C'est bon ça.
Ouais.
J'imagine que c'est bon d'envoyer le message à toutes les personnes de ton pays d'origine que c'est possible.
C'est possible.
On peut le faire.
Et en plus, il y a de la place pour devenir premier médaillé d'argent, premier médaillé d'or. Enfin voilà, il y a encore de la place en plus pour faire mieux.
Ouais, et tous les autres sports.
Oui, dans tous les autres sports, bien sûr. Je disais ouais, comment je suis passé au haut niveau, parce que c'est vrai que l'histoire est intéressante. Mon entraîneur me le dit toujours que j'ai un peu ce profil particulier de celui qui faisait du sport comme ça et qui, à un moment donné dans ma carrière, a fait le switch de dire je veux faire du haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, j'ai fait du kayak. J'étais, on va dire, je pense, un peu doué dans le sens où je faisais des bons résultats, mais juste en pratiquant et voilà, en faisant du kayak avec les copains. Bah voilà, mes copains étaient bons, donc bah, je faisais en sorte d'être bon pour rester avec eux aussi. Donc aller à Toulouse, c'était entre autres rejoindre mes copains qui étaient déjà partis en centre d'entraînement à Toulouse.
Mais quand encore les relations.
Les relations, moi, c'est les relations, c'est le drive. Mais quand j'arrive à Toulouse, au départ, je rejoins mes potes, mais je suis pas du tout en centre d'entraînement en fait. Du coup, je suis en parallèle, donc je trafique plus ou moins pour laisser mon matériel, aller m'entraîner avec eux, alors que normalement, j'ai pas vraiment le droit, mais bon.
Parce que eux, ils sont pros ?
Bah, ils sont espoirs français, en fait.
D'accord, ok.
Donc en fait, moi, après, je suis étudiant, jusqu'à un moment donné où mes parents ils commencent à dire « les études, ça va, mais il faudra peut-être penser un jour aussi à valider tes diplômes et aller bosser. » Et là, donc là, c'est à ce moment-là où je me dis « bon, dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir le potentiel de pouvoir faire tout ce que je veux, de tout réussir, quoi, en gros, que je pourrais tout réussir. »
T'as quel âge à ce moment-là ?
C'est juste après Athènes, j'ai 22-23 ans. Donc quitte à me dire je pourrais tout réussir, bah, je me dis bah commence déjà par le faire parce que t'aimes le mieux, c'est-à-dire le kayak. Et donc à ce moment-là, je me fixe l'échéance de dire bah tu vas jusqu'en 2008. 2008, t'arrêteras ta carrière et tu fais en sorte d'avoir le meilleur niveau possible.
Jusqu'en 2008.
En 2008. Et au moins quand t'arrêteras, tu pourras pas dire si j'avais fait machin, t'aurais pu blablabla. Bla, bla. Je me suis dit ça, je le vivrais mal. Donc au moins tu donnes le meilleur que tu peux et on verra ce que ça donne. Et là, je suis vraiment rentré dans une démarche de haut niveau, parce qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était à l'époque.
Qu'est-ce qui permet de passer d'avoir effectivement des capacités physiques à la base et d'aimer un sport, mais il y a plein de personnes qui ont les capacités physiques et qui aiment un sport et qui ne sont pas au top dans leur domaine. Comment on fait pour passer de là à aller chercher une médaille ?
Bah là, c'est tout un univers qui se transforme. C'est-à-dire que comme tu le dis, au début, on est relativement doué ou bon, on aime juste faire ça. Et puis bah, parce qu'on aime bien, on pratique beaucoup. Et quand on pratique beaucoup avec des bons, bah, on a tendance à sortir des bons coups de temps en temps. C'est-à-dire que moi, avant, un bon entraînement, C'était un entraînement, quand je sortais, j'avais passé des bons mouvements, j'avais fait des bons chronos. Et en fait, je suis passé de ça à ma seule ambition, c'est de performer le jour de la compétition. Sachant que mon ambition, c'est de réussir aux Jeux Olympiques. Donc par exemple, si on est en 2005, moi, mon seul objectif, c'est d'être en finale des Jeux Olympiques en 2008 et d'être bon dans cette finale. Donc tout ce que je vais faire de cette date-là jusqu'à la date des Jeux, c'est fait pour être bon ce jour-là. Être dans un bon entraînement, typiquement, ça va être qu'est-ce que j'ai acquis de nouveau? Est-ce que je me rapproche un peu plus du fait que je vais être bon le jour J en 2008? Et ça, ça change tout. C'est juste du délire parce qu'en fait, il y a plein de moments où tu es nul à l'entraînement. Il y a plein de moments où tu comprends pas si tu progresses ou si tu progresses pas. Je vais travailler sur des domaines que je ne connaissais pas.
Enfin, par exemple.
Je vais pousser sur la nutrition, je vais pousser sur la préparation physique, je vais pousser sur la préparation psychologique, je vais pousser sur à quel endroit je vis, comment je me déplace, comment je récupère, est-ce que je m'étire, combien de temps je m'étire, avec qui je m'étire, avec qui je vais m'entraîner quand je suis en stage d'entraînement, avec quel type de partenaire d'entraînement je progresse plus ou moins vite ou bien, ou sur tel type de domaine, parce qu'il y en a, ils sont bons en compète, il y en a, ils sont bons à l'entraînement. Tout ça, tu le structures parce que tu le prépares 3 ans à l'avance, enfin, ou plus.
Ouais.
Et la vraie différence, je me rappelle de dire à un de mes partenaires, qui était plus doué que moi d'ailleurs à l'entraînement, et je lui disais tout le temps, tant que tu n'auras pas changé ton mindset à t'entraîner pour gagner des compètes, tu ne gagneras pas des compètes.
C'est juste parce que c'est hyper intéressant tout ce qu'on peut extraire de ce que tu viens de dire. C'est que dans un mode, tu es en train de pratiquer pour te faire plaisir et c'est sympa, et en fait, tu fais ton entraînement comme ça de temps en temps, et tu peux d'ailleurs en faire beaucoup en mode plaisir. Mais cet état d'esprit-là, il est très bien quand tu veux juste un hobby, mais à aucun moment, il va te permettre d'aller chercher une médaille d'or et gagner dans 3 ans. Donc déjà, c'est passé de pratique souvent à maintenant, c'est quoi l'objectif que j'ai? T'as un truc maintenant qui devient hyper clair.
Ouais.
J'ai une médaille à la fin, en fait.
Bah, en tout cas, à ce moment-là, c'est je veux être le meilleur possible ce jour-là.
Je veux être le meilleur possible le jour de la compétition au JO. Et après, l'autre chose que je trouve hyper intéressant, parce qu'on se rend pas compte quand on voit un sportif. Moi, je me rappelle les premières fois, je regarde les JO, bah, tu vois juste la performance. Et tu te dis juste, le mec, l'idée populaire qu'un sportif s'est entraîné beaucoup, mais tu te rends pas compte que c'est pas qu'une question de beaucoup. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner beaucoup au kayak, mais si tu fais rien pour te muscler, si tu fais rien pour la nutrition, si tu fais rien pour récupérer tout ce qui est autour, et ben vu que ton compétiteur, lui, il le fait, et ben c'est fini en fait.
Ouais, et au-delà de ça, la problématique, c'est pas de progresser, c'est de progresser plus vite que les autres. Parce que tout le monde progresse. Les jeunes, ils sont morts de faim, les anciens, ils ont l'expérience. En fait, c'est hyper challengeant. Tout le monde a le même temps, plus ou moins le même matériel. Il y a des petites tactiques pour essayer de devancer, mais on est très vite copié de toute façon. Quand on innove, on est très très rapidement copié. Et c'est progresser plus vite que les autres et réussir idéalement à trouver un avantage qui va pouvoir durer dans le temps, parce que bah là, tant mieux quoi. Mais c'est bien plus que juste progresser, parce que des fois, on se rend pas toujours compte de ça. Et c'est exceller dans plein de domaines. Comme je disais, du coup, pour cette composante de réussir le jour J, et de progresser dans plein de domaines assez précis pour finalement faire une différence. Quoi. Cette composante de tous ces détails qui va faire un tout vraiment cohérent.
Et tu sais ce que j'aime là-dedans, si on transpose à n'importe quel domaine, et tu sais à quel point j'adore la pratique délibérée, l'entraînement délibéré, c'est que voilà, une personne qui a envie, par exemple, d'être à l'aise à l'oral, si on applique ça, c'est pas juste « ok, je vais parler de temps en temps », c'est quoi être à l'aise à l'oral, qu'est-ce que je peux faire avant, qu'est-ce que je peux faire pendant, comment je vais respirer, comment je vais me parler à moi-même, comment je vais retrouver l'énergie pendant la conférence, comment je vais parler aux personnes. Et c'est me concentrer sur plein de petits détails.
Exactement.
Qui, si on les sort, ils vont se dire, bon, c'est rien, c'est un petit détail, mais cumulé, c'est ce qui va faire qu'on va se dire, c'est le génie en fait. On va dire, waouh, j'ai jamais vu ça en fait.
Et quand tu dis, on se rend pas compte effectivement de la réussite quand on voit une réussite, moi je le vois dans plein de domaines. Quand je regarde, ne serait-ce que je regarde un film, quand on regarde quelqu'un qui fait une performance, qu'à chaque fois dans les médias, on va voir pendant un coup de projecteur le jour où la personne elle a réussi. Et je me dis tout le temps, mais sauf qu'ils nous montrent jamais tout le reste, alors que c'est le plus intéressant. Enfin,
bon, ouais,
qu'est-ce qui m'intéresse le plus?
Tout l'entraînement, toutes les galères, ouais. Les doutes, les réussites,
exactement.
Tout ce qui se passe, la psychologie de la personne. C'est pour ça que tu es là. Et donc du coup, tu bascules dans cet entraînement et pendant 3 ans, en gros, tu vas à fond pour aller chercher...
Ouais, bah moi, je découvre ce que c'est que de faire du haut niveau à ce moment-là, en fait. Tranquillement, au début, je suis en train de le faire sans m'en rendre compte, parce que du coup, c'est mon entraîneur qui, à l'époque, prend un peu les choses en main. Moi, je lui dis, quand je le rencontre, c'était l'entraîneur d'un de mes meilleurs amis et partenaire d'entraînement. Je lui dis, je voudrais être médaillé au jeu, qu'est-ce que t'en penses? Moi, à cette époque, je suis 60e au championnat du monde. Bref, hein, c'est inimaginable.
C'est un délire.
Limite, ouais. Moi, ça me paraissait réalisable, mais c'est quand même plutôt un délire. Et là, il dit, bah, ça pourrait être éventuellement envisageable. Dis-moi comment toi, tu vois le truc. Et puis, bah, on en reparle. Donc là, moi, j'essaye de dire un peu comment je vois le truc. Je pense que je suis loin du compte. Et là, il me dit, bon, maintenant, tu vas un peu plus clarifier qu'est-ce que ça représente pour toi au niveau technique, au niveau matériel, au niveau physique, au niveau social, enfin, au niveau professionnel. Il dit, qu'est-ce qu'il faudrait faudrait un peu pour que tu sois médaillé olympique. Et là, on a commencé, c'était mon canevas que j'ai suivi après tout le long pour la préparation olympique. Mais au début, j'étais laisse tomber, c'était une catastrophe.
Je mets pause, parce que ça paraît banal pour un sportif de niveau ce que tu viens de dire, et c'est tellement puissant. La raison pour laquelle j'aime autant dans les séminaires, tu vois bien insister là-dessus, c'est parce que oui, c'est important d'y croire et de savoir qu'est-ce que tu veux atteindre, mais il y a beaucoup de choses dans le développement personnel qui s'arrêtent ici, à savoir ce que tu veux et y croire. Et ce que j'aime là-dedans, qu'a fait ton entraîneur, c'est ok, Benjamin, tu veux être médaillé d'or, mais ça va demander quoi en fait?
Exactement.
Ça va demander quel changement? Et ça s'applique à tout. La personne, elle vient nous voir, elle dit tiens, j'ai envie d'être en couple, j'arrive pas à être en couple depuis 5 ans. C'est pas juste visualiser qu'elle va être en couple ou croire qu'elle va être en couple. La question que ton entraîneur poserait ou que tu pourrais poser aujourd'hui, que tu accompagnes les gens dans la performance, c'est ça va demander quoi pour devenir la personne qui est en couple facilement? Ça pourrait s'appliquer à la personne qui nous dit tiens, j'arrive pas à avoir des jobs, à chaque fois que j'ai un entretien d'embauche, les gens s'intéressent pas à moi. C'est pareil. Tu veux devenir le genre de personne qu'on a envie d'embaucher, ça implique quoi?
Je vais même aller, parce que là c'est encore presque général, mais j'aime bien donc quand
vas-y,
on va là-dedans,
être
le plus spécifique possible. Et en fait, spécifique, c'est, là dans mon cas, c'est quoi médaille olympique pour toi en fait? Toi, ça va être quel style aussi? Parce que toi, moi je dis tout le temps, moi je suis médaille olympique, pas du tout dans le même style que plein d'autres ont été médaille olympique ou champion olympique. Ça veut dire c'est quoi toi ton style? C'est tu vas gagner cette course là ou tu vas en gagner 10 avant? Ça va être plutôt sur le physique ou plutôt sur la technique? Et là ça devient tout un monde qui t'appartient. Et là une fois que tu as commencé à designer ça, tu vas te rendre compte, là par exemple ça va être ma finale où je fais mes Jeux Olympiques. Et après toi t'es quelque part ailleurs. Et maintenant c'est comment on va faire le lien entre les deux bouts. Et là c'est là où là c'est parti, là c'est mode action, rétro-planning, enfin après là tu rentres dans des démarches un peu militaires. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me rends compte à quel point plus tu es précis sur comment je vais être champion, enfin là, à l'époque, c'était pas forcément champion olympique, mais en tout cas, ce sera quoi, Benjamin, au meilleur niveau en 2008, ça ressemble à quoi? C'est quel style de navigation? Quand tu regardes le film, c'est quoi en fait? Et même l'émotion, quoi. Est-ce que tu es plutôt le gars qui fait le show au départ ou est-ce que tu es plutôt le gars qui est introverti? Tout ça, ça compte. Et en fait, ça, on l'oublie parce qu'on se dit juste, ouais, je vais être en couple comme lui, sauf que lui, c'est pas toi. Dès que tu le fais pour toi, d'un coup, tu deviens bien meilleur, en fait. Parce que tu commences à jouer sur là où tu es talentueux, là où tu commences à avoir des vraies forces, et là où je parlais tout à l'heure de la compétition effrénée. Si tu joues dans ton terrain de jeu, tu peux être excellent. Si tu joues dans le terrain de jeu des autres, tu seras forcément moins bon que celui que tu copies.
Tu peux donner un exemple dans ton sport, de ce que ça donnait, par exemple, pour toi, jouer dans ton terrain de jeu?
Moi, mon terrain de jeu, typiquement, je suis à la fois joueur et offensif et très physique. Ça veut dire que moi, déjà avant de performer un plus haut niveau, j'étais le gars qui pouvait régulièrement avoir le meilleur temps sur la première moitié de parcours. Même si j'allais finir centième, j'étais capable d'avoir le meilleur temps sur la premier quart, premier tiers, première moitié de parcours.
Tu partais fort et vite.
Ouais, moi je faisais n'importe quoi, donc il y a toujours un moment où je pétais une case et que je faisais une connerie. Mais par contre, j'avais beaucoup de physique et j'avais une navigation assez engagée, donc j'osais prendre des risques. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Mon entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait? Et il m'a dit, toi, on va travailler sur un sujet, que tu ailles toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et en fait, jusqu'à ce que je gagne la médaille olympique, les gens autour, des fois, comprenaient pas. Ils disaient, mais là... c'est fou, là, il continue à attaquer. Et en fait, les gens ne voyaient pas que dès que je commençais à plus faire de fautes, j'étais premier. Quand je faisais une faute, ça me ralentissait. Donc, si j'étais déjà plus rapide avec des fautes, enfin, les fautes, c'est notamment toucher des piquets, ça rajoute du temps. Et que déjà, quand je touchais des portes, j'avais tendance à avoir le meilleur temps. Et dit, mais si en plus tu touches plus les portes, c'est que tu n'as pas fait de faute, donc c'est que tu allais encore plus vite. Et c'est ce qui a fini par se passer.
Et donc, du coup, vous mettiez plus d'énergie à quoi? Plus d'énergie à corriger là où tu étais fragile ou plus d'énergie à devenir hyper bon là où tu l'étais déjà?
Ou plutôt énormément d'énergie à être hyper bon là où j'étais déjà meilleur.
Donc c'est prendre ta force et presser le citron au maximum de ce qu'on peut arriver à faire avec.
Typiquement, j'étais déjà quelqu'un qui était plutôt fort physiquement, assez explosif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé la force et l'explosivité. Mais du coup, en explosivité, je suis devenu j'étais un monstre. Mais après, du coup, c'était reconnu. J'avais une navigation que de toute façon était inimitable par un paquet de monde, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le physique.
Alors, c'est hyper intéressant, parce que du coup, quelqu'un qui, imaginons, te voit toi et dit tiens, je veux avoir la même réussite que Benjamin, mais qui n'a pas à la base ses attributs physiques, mais peut-être qu'il y a autre chose, par exemple, une super bonne constance, faire peu d'erreurs, mais qui a peut-être moins cette explosivité, c'est-à-dire je vais essayer d'être explosif comme Benjamin, et qu'en fait, à la base, la génétique ou peu importe, la vie lui a pas donné ce truc-là en fait.
Exactement.
Et j'aime beaucoup le message qu'on peut encore une fois extraire plus globalement, c'est qu'on a tous un génie, mais on n'est pas tous un génie de la même manière. Et donc, du coup, je vais regarder un Steve Jobs et je vais me dire, ah putain, je vais faire comme lui, mais en fait, j'ai pas son génie. Donc, je peux essayer de forcer comme je peux. Je vais devenir peut-être, allez, si je bosse comme un fou, peut-être bon, peut-être très bon, mais pas exceptionnel en fait.
Bah, en tout cas, t'atteindras jamais son génie à lui parce que ça lui appartient. Mais en plus, typiquement, l'un des concurrents de l'époque est Fabien Lefebvre, donc est vice-champion olympique sur cette même épreuve. Typiquement, lui, il avait un profil physique qui est l'opposé du mien. Lui, il avait cette capacité à être bon sur des temps un peu plus long, c'est-à-dire qu'une compétition dure 90 secondes à peu près. Moi j'étais excellent sur les 45 premiers, lui il faisait la différence sur les 45 dernières. Donc on a des styles qui ont juste rien à voir en fait quelque part. Pourtant on se connaît depuis tout petit, hein, ce qu'on a commencé, on a qu'un an d'écart, on a commencé tous les deux en région parisienne, donc on se connaît et on se suit depuis petit. Pour le concurrencer et finalement être à deux doigts d'être devant lui, j'ai dû développer ma manière, même si j'ai copié beaucoup de choses, j'ai quand même dû le faire à ma manière. Ça veut dire que lui il va avoir un style économe au début, une technique très fine pour dépenser le moins d'énergie possible, qui lui donne un avantage en deuxième partie de parcours.
Il y a eu une phase de ta vie où tu essayais entre guillemets trop de faire comme lui?
Oui, clairement, il y a une phase où tu regardes le meilleur, tu essayes de faire comme le meilleur. Sauf qu'encore une fois, tu vois à ce moment-là que la phase visible, que la compète, en fait, tu vois que ce moment où il réussit en fait. Et tu vois pas ce moment où il travaillait. Moi, je me souviens quand en préparant notamment 2008 et 2012, j'ai beaucoup regardé Tony Estanguet, hein, qui est quand même une sacrée référence chez nous, trois fois champion olympique. Donc lui, on a eu le temps de voir comment il a fait pour performer.
C'est-à-dire que tu regardes quoi, des enregistrements de ses entraînements?
Non, bah on a la chance, notre milieu est petit, hein, donc on a la chance de se côtoyer beaucoup sur les stages d'entraînement, sur avant les compétitions. En fait, on est quand même très proches les uns des autres. Après, la seule chose, c'est est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on regarde pas en fait. Mais du coup, on va regarder comment il s'entraîne et comment il est passé de sa navigation en 2009 à sa navigation en 2012. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a travaillé, quel type de navigation, en tout cas, comment il était en compétition en début d'année, en milieu de saison, en fin de saison. Quand on va regarder une manche finie, une finale des Jeux Olympiques, c'est un style physique, c'est un type de vitesse, c'est des gestes techniques, c'est une façon de prendre les portes en remontée, une façon de prendre les portes en descente. Il y a plusieurs techniques différentes, mais en tout cas, on a un style de posture ou autre, une façon d'aborder la compétition. Est-ce qu'on est très à l'attaque? Est-ce qu'on est plutôt en défense? Est-ce qu'on cherche à faire l'écart plutôt en fin de parcours, en début de parcours? Et là, du coup, on se rend compte quand on regarde toutes les compétitions de la saison, et ben qu'en fait, il va avoir construit de différentes manières. C'est-à-dire qu'une fois, il va être parti très fort, une fois, il va être parti lentement, une fois, il va avoir une gestuelle lente, des fois, une gestuelle rapide. Bah c'est là où ça devient intéressant. Soit tu peux lui demander, mais ça, on ne le va jamais, tu le dis, ça. Mais du coup, tu vas regarder, est-ce qu'il l'a adapté au style du bassin, donc au style de la rivière, ou est-ce que c'est parce qu'en fait, il avait une forme différente, est-ce qu'il a changé son matériel? Du coup, tu vas regarder plein de détails et essayer de faire des corrélations. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, Tony Estanguet, tu le connais depuis longtemps, tu connais son style depuis toujours. En fait, tu te rends compte que quand il arrive en fin de saison, c'est toujours son style qui revient. Il a beau avoir travaillé tout ce qu'il veut pendant l'année, à la fin, son style qu'il a depuis qu'il est jeune, il a juste un peu évolué, il s'est étoffé, il va être des fois plus physique ou un peu plus offensif ou autre, mais ça revient. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tout le reste de l'année, il travaille pour juste peaufiner un détail qui va se voir, qui va se jouer à la finale, des fois qui va être presque rien, mais en fait, il a travaillé pendant un an ou plus.
Comment on pourrait transposer ça, tout cet état d'esprit de sportif de haut niveau, à quelqu'un qui veut cartonner dans sa carrière?
Cartonner dans sa carrière, c'est un tout petit peu différent que réussir un événement. Donc cartonner dans sa carrière, typiquement, Tony Estanguet, c'est assez intéressant, parce que lui, trois fois médaille olympique, il a été archi-performant pendant 20 ans, donc c'est quand même quelque chose. Comment on peut le transposer? Tiger Woods, c'est un excellent exemple, je regardais un reportage sur lui hier, justement. C'est des personnes, ne pas être au top, c'est inacceptable. Et c'est quand t'es pas au top, c'est pas que... C'est pas genre « Ah merde, j'ai foiré, l'autre fois je voyais un joueur de l'équipe de France de rugby, et il loupe un truc et puis « Ah !» Je dis « Non mais là, comment tu veux que j'ai cette attitude d'un gars à l'entraînement, genre j'ai loupé la balle ?» Enfin, pour moi, quand tu es vraiment dans le haut niveau, t'as raté un truc, t'es déjà tout de suite en mode « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu se passer? Est-ce que j'ai fait une erreur de placement? Est-ce que j'ai fait une erreur, j'ai les trucs, enfin, si c'est une faute de main, est-ce que, voilà, il faut que je fasse gaffe que j'ai les mains sèches? Est-ce que... » Tu vas tout de suite voir tous les détails que tu peux ajuster pour que ça se reproduise pas une deuxième fois. Si ça se reproduit...
Et ça s'applique pour le coup hyper bien à la carrière.
À la carrière.
Ouais.
À la carrière, et puis après, c'est prendre un maximum d'éléments en compte. Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans mon environnement? Oui, non. Enfin, parce qu'en fait, ce qui fera la différence, c'est ma capacité à anticiper. Finalement, anticiper, soit avoir moins un impact sur mon environnement quand c'est ma carrière, soit je m'adapte à mon environnement, parce qu'il y a plusieurs styles, pareil, comme pour le sport, il y a plusieurs façons de cartonner dans sa carrière. Est-ce que je veux être le dirigeant d'exception? Est-ce que je veux être le bras droit d'exception? Est-ce que je veux être l'employé d'exception? Voilà, je regardais encore des vidéos d'Oussama Hamar qui dit quand tu as été trois fois, la dixième personne a été employée d'une start-up qui va exploser, du coup, tu deviens un employé que tout le monde veut. Tu fais partie de ceux qui vont faire exploser des entreprises. Et ça peut être une façon de réussir sa carrière. Il y a plein de façons de le faire. Et maintenant, par exemple, si c'est ça, je vais peut-être avoir un détecteur à la start-up qui va exploser, où je sais que mon talent, quand je vais l'apporter, je vais lui faire faire une différence, par exemple.
C'est bon, ça.
Ce que je trouve fascinant et qui peut paraître difficile pour plein et qui, moi, me paraît assez simple, tout est du détail. Et bah forcément, face à n'importe quelle situation, tu as une infinité de détails. Et ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à aller te faire focus sur le détail sur lequel, toi, tu auras une différence. Parce que toi, si on fait la même chose, tu vas pas mettre l'accent sur les mêmes détails que moi, je le ferais pour peut-être pourtant obtenir les mêmes résultats. Et c'est ça qui est délicat en fait dans le fait de copier, c'est toujours de se dire qu'est-ce que je peux.
Quelle est la part que je prends et quelle est la part qui en fait je dois la laisser parce que c'est pas moi.
Exactement, en fait. Et comment je me l'approprie en fait. Moi j'ai constaté que les performeurs ils tournent toujours autour de 3-4 trucs qui sont toujours les mêmes.
Vas-y, raconte-nous. C'est quoi les 3-4 trucs?
Mais en fait, tu peux. Enfin, 3-4 trucs, ça va dépendre des personnes, ouais. mais tu vois, typiquement, moi je disais, je travaillais sur ma navigation offensive et mon physique, mon explosivité. Typiquement, tu pourras regarder tout le style, tout va être fait pour mettre ça à l'honneur, pour que je puisse exprimer cette offense, enfin ce côté explosif et ce physique. Après, par exemple, si je te regarde toi, je vais me dire, tiens, sur quoi il tourne en boucle par finir par performer.
Alors, selon
toi. Je me l'étais dit, ça fait ça, je l'ai oublié là, mais à un moment, je me l'étais dit. Bon, en tout cas, après, ce qu'il y a, c'est que là, c'est plus un concept, donc c'est peut-être moins ta boucle de performance, mais toute cette notion de l'équilibre et le fait de rééquilibrer rapidement, je me rends compte que de toute façon, quoi qu'on parle, c'est réappliqué à toutes les sauces. Et le deuxième truc qui va avec, c'est le côté entraînement, c'est-à-dire j'ai un feedback, je corrige.
C'est voilà, clair, c'est deux choses qui reviennent énormément dans tout ce que je fais.
Je me dis que toi, tu tournes pas mal autour de ces deux trucs-là, parce que tu peux essayer recommencer et en fait continuer à pas mal te planter et en fait au mieux tu vas rajouter cette notion d'équilibre qui va faire que tu gagnes du temps en fait, tu vas faire moins de répétitions.
C'est clair. Alors du coup c'est une bonne transition, qu'est-ce qui t'a amené à faire des séminaires avec moi, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a plu?
Je t'ai découvert à travers mon frère au tout début quand je t'ai vu les premières fois.
Raconte-nous, vas-y dis ce qui s'est passé dans ta tête.
Ma femme qui m'a envoyé le kiss kiss bang bang que vous avez fait avec Julie avant de partir aux États-Unis. Donc là, tu as une belle chemise un peu à l'américaine, les cheveux longs, un peu à la Dave, c'est juste magnifique. Mais en tout cas, les premières fois où je t'ai vu, ouais, je me suis dit, c'est quoi ce gamin? Il y avait quand même des concepts assez intéressants dans le sens où c'était très pragmatique. On sentait le côté appliqué et qu'on pouvait facilement s'approprier. Et une fois avec ma chérie, on s'est dit, bon là, on veut changer, enfin on veut un peu se bousculer. Donc on a fait les wake-up calls, mais là, on s'y est vraiment employé tous les jours, machin, on s'est suivi, on l'a fait ensemble. Et là, au bout de 3-4 mois, j'ai vu tous les changements qu'il y a eu dans notre vie.
Par exemple, moi, tu sais que ça me fait du bien, hein, vas-y.
Bah, le mur des rêves dans notre chambre. Donc au début, on voulait mettre un cadre là, mais du coup, c'est devenu un mur où on a mis un peu. Donc quand on se lève de notre lit, on a le mur et il est encore toujours là avec qu'est-ce qui est important pour nous, vers où on veut aller. On avait une pièce en rab chez nous, c'était une semaine où, enfin je sais plus c'était sur quoi, il y avait une pièce chez nous qu'on n'utilisait pas, on avait un pote à nous photographe, on s'est dit mais attends on a une pièce, on n'utilise pas, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens autour de nous, du coup on lui a mis à disposition pour qu'il en fasse un studio. Moi du coup je m'étais mis à voir le truc tous les matins, je m'aime, je nous aime, enfin voilà, remercier un peu comme quoi la vie elle nous a accompagnés, comme quoi tout ce qu'on fait aujourd'hui ça peut être génial. C'est plein de petites choses en fait, hein, au final tu te rends compte que c'est des petites choses. Donc ça a été un élément, puis du coup je continue à suivre et puis au bout d'un moment je me dis, je pense que j'ai dû laisser un trou, et puis ça doit être encore ma chérie qui me dit, t'as vu un peu les vidéos, David? Je regarde la qualité des vidéos, je dis, mais attends, mais rappelle-toi, c'était il y a que 2 ou 3 ans, les trucs un peu plus amateurs, entre guillemets. Là, quand j'ai vu la qualité, la progression, mais en fait, ce qui m'inspire le plus chez quelqu'un, c'est pas tant selon le niveau qu'il atteint, c'est d'où il part. C'est-à-dire, en entreprise, j'ai toujours aimé pas tant le celui qui est le meilleur qui reste juste moyen, je trouvais ça bif-bof. Par contre, celui qui a la capacité à progresser, tout le temps progresser, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et là, je me suis dit, tiens, mais toi, t'as vraiment ce modèle de je progresse. Et je me disais, je retrouvais pour la première fois réellement chez quelqu'un en dehors du sport, pas mal de caractéristiques du sport. Et moi qui étais en train de me diriger vers le côté entrepreneur, l'entreprise et autres, et comment je fais la passerelle entre les deux, sans faire un peu ces amalgames où quand le sportif parle entrepreneur, l'entrepreneur voit le sportif, c'est génial, mais finalement, il n'arrive pas à transposer grand-chose. Ouais. Et quand le sportif parle d'une entreprise, vu qu'il n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, à part quand il gère son business, ses restaurants et autres, mais il a une vision qui est quand même assez erronée de la réalité. Et je me disais, ces deux mondes ont encore du mal à se réunir, enfin surtout en plus chez les francophones, peut-être moins chez les anglo-saxons. Mais du coup, là, de retrouver ces caractéristiques, ces traits de caractère, ce que je disais, ce côté j'essaye, je recommence, je remets en question, le feedback, c'est la première fois que j'entendais parler par un entrepreneur avec des vrais automatismes de la compétition et de l'entraînement.
Ouais, trop cool.
Le côté d'avoir le feedback du coach, d'avoir des feedbacks vidéo, typiquement, moi j'ai jamais été sur une séance sans avoir un objectif de séance. Quand tu le dis en séminaire, oui, il faut vous dire quand vous faites ça, c'est quoi votre objectif, un peu l'objectif immédiat, en tout cas sur quoi je voudrais progresser. Mais pour nous, c'est juste.
C'est un réflexe, ça fait partie de la, comme si j'avais la culture en fait.
Ouais, c'est si tu me dis tu vas t'entraîner sans ta paillette, c'est la même chose hein, que de dire tu vas t'entraîner sans savoir quel est le but de la séance. Et je veux dire ça dans la bouche de quelqu'un qui est pas forcément passé par le sport de haut niveau, qui est entrepreneur, ça m'a quand même vraiment interpellé. Et donc voilà, moi vu que j'ai plutôt des profils en apprenant qui sont plutôt à copier, je me suis dit de toute façon rien que de me rapprocher, je pense que ça serait intéressant.
Qu'est-ce qui t'a le plus parlé là dans tout ce que t'as appris avec moi, les choses qui t'aident le plus et qui peuvent aider du coup les personnes qui nous écoutent, qui sont accessibles pour elles à entendre là maintenant?
Alors moi, ce qui m'a le plus apporté concrète, enfin qui m'a vraiment apporté dans la largeur de ma vie aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'équilibre. Sincèrement, ça j'ai gagné un temps fou émotionnellement. Nous, on est dans une famille de boudeurs, donc t'imagines même pas, on a une capacité à bouder pendant presque des semaines. Et on essaye de progresser, les frères et sœurs sur le sujet. Mais là, je veux dire...
Ça t'a apporté quoi ouais. Sans expliquer forcément tout le concept.
C'est instantané, ça veut dire que quand je pars en mode boudin, juste je me dis tiens, en gros genre, pourquoi tu boudes, c'est quoi les avantages, quel intérêt t'y retires à le faire. Et rien que de faire ça, en fait le problème est résolu quasi instantanément. Et c'est juste dingue, avec du coup Nati, quand on se retrouve le soir, du coup... Ouais, c'est ma femme. Et typiquement, maintenant, on fait des moments gratitude. Et à chaque fois qu'on fait un moment gratitude, moi, je choisis le pire moment de ma journée. Je me dis, quel est le moment que j'ai le plus détesté ou le moment qui m'a fait le plus mal? Et là, en se disant, tiens, en quoi ça m'a apporté de la valeur? Qu'est-ce que j'ai pas vu dans ce moment-là qui, en fait, était génial? Et c'est juste dingue, en fait, ce que ça m'apporte.
Et du coup, tu le fais avec ta femme, alors?
Ça, ouais, on le fait, ouais, parce que c'est top d'avoir aussi le feedback, quoi. Enfin, moi, je trouve l'échange, ça aide aussi à avoir le regard, en fait. Tout seul, des fois, c'est un peu... Ça marche aussi bien. Au début, on avait fait la formation gratitude ensemble, pareil, ouais. Un peu comme le wake-up call. Et c'était vraiment intéressant quand on faisait la gratitude, c'est que, autant moi, j'avais une capacité à avoir large, elle avait une capacité à avoir profond. Et c'était, elle voyait remercier de lui qui a fait lui, enfin de comment elle va aller dans la profondeur. Exactement. Ouais. Alors que moi, je voyais beaucoup plus dans la largeur. C'était vraiment intéressant d'échanger, de se rendre compte comment, encore une fois, la perception du monde, elle est vraiment différente. On arrivait tous les deux à des niveaux d'intensité de gratitude, on va dire, assez avancés, mais pas du tout pas par le même chemin. C'est là où c'est hyper intéressant d'échanger.
Donc la capacité à dépasser plus vite ce qui t'arrive et à apprécier ta vie.
Ça, c'est ce que ça m'a apporté vraiment personnellement. Parce que quand je regarde un peu le dev perso ou autre, ce que je vois, ce que les gens recherchent beaucoup, c'est la capacité à se mettre en œuvre, des résultats. Moi, c'est peut-être encore moins là où j'avais le besoin, mais je me rends compte qu'il y aurait une capacité à vulgariser, enfin, rendre très accessible et digeste cette approche-là, quoi. Et ça, je trouve que c'est avec des questionnements étape par étape. Puis comme je disais, avec tous les modèles du sport de haut niveau, on sait jusqu'où ça nous amène en termes de résultats et que là, il n'y a juste pas photo. Mais comment on peut partir de... Enfin, le modèle que tu avais présenté, je l'ai réutilisé plus tard. Quand je veux progresser en quelque chose que je ne sais pas faire, juste je pratique. Et après, d'aller jusqu'à... j'ai un objectif. Et comment je vais décliner tout ça, quels sont tous les détails sur lesquels je vais pouvoir travailler, quels sont les personnes avec lesquelles je vais m'entourer. Enfin, on peut passer de presque rien à quelque chose d'extraordinaire et toi, tu arrives à bien maîtriser toute cette largeur de monde.
Et tu me disais là tout à l'heure hors caméra qu'au séminaire Entraîner pour réussir, tu avais eu le déclic justement de se dire la performance que j'ai pu faire en tant que sportif de haut niveau, le tas d'esprit que j'ai finalement, je peux l'appliquer à... Enfin, je te laisse en parler, tu en parleras ouais. Encore mieux que moi.
Bah c'est vrai, quand EPR, donc entraîner pour réussir, bah déjà ça me parle vraiment. J'ai trouvé ça génial.
Qu'est-ce qui te plaît là-dedans?
Bah c'est que moi, ça représente ma vie. Enfin, j'ai quand même consacré ma vie jusqu'à 27 ans à m'entraîner pour réussir, hein, finalement, de manière différente tout au long de ma carrière. Mais moi, entraîner pour réussir, c'est juste ma vie. Donc, dit comme ça simplement par quelqu'un, et on va en parler pendant 2 jours, c'est...
Trois.
C'était 3 jours. En plus, Fred Bousquet qui était là. Ouais. Du coup, un champion interviewé par quelqu'un qui, pour moi, porte les valeurs du haut niveau mais qui est plutôt entreprenant. Enfin, c'est vraiment intéressant de le vivre et de me rendre compte de ce que ça allait donner. Et en fait, ce que j'ai réalisé pendant ce séminaire, c'était déjà un, quand tu décrivais ce que c'était, ce que tu appelles la pratique délibérée. Alors, du coup, moi, ça me fait marrer d'entendre un mot là-dessus. Mais en fait, moi, j'appelle ça tout bonnement s'entraîner.
Ouais. J'ai mis des mots sur des choses qui sont des basiques pour quelqu'un qui performe au niveau.
Ah ouais, clairement. Clairement. Nous, on appelle ça s'entraîner, en fait, hein, tout simplement. Donc déjà, le fait, quand tu as expliqué tout ça, je me suis dit, pour moi, c'était assez naturel. Enfin, en fait, je réalisais un peu plus ce que je mettais en place au quotidien pour performer. Et en plus, là, tu le mets à des niveaux pour que ce soit accessible à des gens qui n'ont jamais fait. Donc ça reste presque le béaba. Mais là, je me disais, ah ouais, en fait, d'accord, ça, c'est pas naturel, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas si naturel que ça. En fait, or pour moi, c'était des évidences. Quand je parle à quelqu'un de performant, je dis non, mais ça, tu fais comme ça, c'est bon. Maintenant, je me rends compte, il faut que je prenne peut-être un peu plus de temps pour qu'ils comprennent. Et la deuxième chose, c'était pendant l'interview de Fred Bousquet, je crois, quand vous parlez, je réalise, je me dis, mais en fait, cette démarche de haut niveau, moi, je l'ai appliquée à un sport parce que c'était mon objectif à ce moment-là, mais j'ai dit, mais en fait, ça s'applique à tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, tiens, si je faisais de ma vie cet objectif, cette médaille olympique, entre guillemets, si ma nouvelle médaille olympique, c'était ma vie, donc tout compris, mes finances, ma vie de couple, ma vie de famille, ma carrière professionnelle, le temps que je passe en plein air, le temps que je passe avec mes amis, ma famille, ma spiritualité, ce soit à quoi je pense, etc. Et ça a complètement changé mon approche. Et du coup, ça m'a beaucoup remotivé dans ma vie, parce que j'ai trouvé un nouveau prétexte de mettre de la démarche du haut niveau dans ma vie. Et là, du coup, c'est hyper, enfin, je m'éclate. Ouais.
Et d'ailleurs, je veux appuyer un truc. Je pense que le truc qui t'a aidé, là, tu sais, d'aller chercher une médaille dans chacun des domaines de ta vie, c'est ça que t'as dit?
En fait, j'ai plutôt dit, c'est de faire de ma vie cette nouvelle médaille. Enfin, en tout cas, que ma vie tout entière, ce soit un peu comme quand je suis allé chercher cette médaille olympique en 2008.
Ça, vraiment, c'est un vrai concept pour toi.
Ah.
et je suis sûr que c'est hyper parlant. Ça a réutilisé, parce que ça t'a tellement impacté toi. C'est, voilà, petite parenthèse, c'est à réutiliser pour toi. Forcément, ça va te parler de se dire, tu es en train de le faire pour toi. Ta mission maintenant, ça va être d'aider les gens à faire de leur vie leur médaille olympique.
Bah, et puis du coup, là, je rebondis sur ça, parce que j'en ai parlé avec d'autres titanium. Parce que l'avantage de titanium, c'est qu'on se retrouve aussi facilement en avançant au même niveau. Donc, c'est l'occasion de faire aussi des sessions approfondies, des fois juste en binôme, ce que j'ai fait. Et je racontais, moi, du coup, en fait, j'ai découvert ça pour performer dans le haut niveau. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appliqué à mon couple, le même concept. Du coup, le couple qui est entre guillemets cartonne, parce qu'en fait, j'ai exactement la même thématique. Quand je vois des gens qui se séparent ou qui réussissent, je vais aller regarder pourquoi ils sont séparés, qu'est-ce qui s'est passé, c'est
quel
quoi
détail.
En quoi ça peut s'être applicable à moi? Ou en quoi c'est pas applicable, si c'est pas applicable, comment ça se fait que je comprends pas, comment ça peut être applicable, il y a encore un truc que j'ai pas vu, que j'ai pas saisi. Et voilà, et en fait, quand je raconte ça, c'était avec la partenaire Titanium, elle me dit, mais en fait, tu te rends compte que tu appliques tout le temps la même chose là? Je dis, c'est-à-dire, parce que je m'en rendais pas compte.
Je suis super content que tu sois là, parce que ça permet vraiment d'ancrer que ce que j'aime moi dans cette approche justement de sport de haut niveau, et en plus, c'est ça qui est fou avec la vie, c'est-à-dire que ce qui est entre guillemets dur dans le sport de haut niveau dans ton cas, c'est-à-dire que tu peux avoir été extrêmement bon toute l'année et si tu rates la finale, tu peux rater. Ce qui est fou avec la vie, qui pour le coup est encore plus facile, c'est-à-dire que si tu es dans cet état d'esprit de sportif de haut niveau, mais en fait tu es garanti de réussir. Dans le sport, il suffit que tu es malade ce jour-là, machin, tu te sens pas bien, tu peux ne pas aller chercher ta médaille.
Moi, athlète, je considère que c'est pas un hasard quand on est malade ou quand on se blesse avant un événement.
On est d'accord, t'as raison. On est d'accord. C'est clairement pas un hasard si ça t'arrive. Mais en tout cas, il y a des paramètres qui peuvent faire que ce jour-là, t'es moins bon. Alors que dans la vie, c'est l'état d'esprit que t'es en train de parler. Mais en fait, c'est ça que moi qui me fascine, c'est que c'est pas t'as des chances d'être meilleur. Mais en fait, t'es sûr d'être meilleur. Tu mets ça dans ton couple, en fait, il peut faire que mieux. Tu mets ça dans tes relations avec tes parents. Tes relations, elles peuvent que s'améliorer. Les gens pensent que la gestion de conflits, c'est. Voilà, tu fais au mieux. Mais en fait, la gestion de conflit, ça peut s'apprendre, mieux communiquer, respirer, apprendre à ouvrir son cœur. C'est plein de petits détails, comment tu te parles, comment tu respires, comment tu serres ton ventre.
Je parlais encore avec un partenaire hier où il me disait « Ah oui, tiens, c'est appliquer une méthode. » Et moi, je dis « J'aime pas trop ce côté méthode parce que après on croit qu'on va prendre une méthode dans un bouquin, on va l'appliquer. » Moi, ce que j'aime dans le haut niveau et dans ce que je fais aujourd'hui, je le décris comme ça. Je dis « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de haut niveau. » Moi, c'est un process complet, c'est des étapes. L'excellence, c'est une habitude, c'est pas une méthode.
En fait.
C'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. Et en effet, comme on le disait au tout début, on se disait le haut niveau, ce qui est dur, c'est cette concurrence qui est juste oppressante et qui a un très haut niveau. Quand tu vas être dans les meilleurs mondiales, tout le monde essaye d'être qualifié aux Jeux Olympiques ou énormément de monde. Et donc là, la pression, elle est immense. Quand le sujet, effectivement, c'est de réussir son couple, d'obtenir un job ou de se dire « Ok, je veux réussir à me payer ma maison et partir en vacances », en fait, tu te rends compte que ça, c'est un niveau de réussite qui est, entre guillemets, je vais pas dire qu'il est moyen, mais des exemples autour de toi, déjà, t'en as des milliers.
C'est largement plus accessible, quoi.
C'est plus accessible. Parce que, par contre, avoir l'exemple de quelqu'un qui est multi-médaillé olympique, bizarrement, déjà, t'en as déjà beaucoup moins. Et dans ton sport, peut-être pas. Et en fait, savoir performer faire quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait ou pas loin, c'est déjà beaucoup plus complexe.
Alors que des exemples de gens qui arrivent à être épanouis en couple,
réaliser
leurs rêves, il y en a plein sous plein de formes, tu peux apprendre d'eux et faire comme eux en fait.
Et en plus maintenant, ceux qui réussissent, ils l'étalent sur YouTube et tout, donc en plus, il n'y a pas grand chose à faire pour les trouver.
Non, c'est clair. Pour moi, on est dans une ère qui est magnifique pour apprendre. YouTube, Internet, les blogs, les sites, les formations en ligne, ça c'est... Aujourd'hui, il faut quand même aller chercher loin les excuses pour pas apprendre dans quelque chose que tu as envie de faire progresser.
Et ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de réussir. Parce que ce qui est génial, c'est que maintenant, dans un domaine particulier, tu peux voir beaucoup d'exemples différents. Voilà. Avant, on avait un ou deux bouquins, du Ponte, de l'expert, et bah, on pensait qu'il fallait faire comme l'expert. Or, maintenant, on voit quand même aussi plein de...
Un panel et tu peux piocher ce qui te parle chez l'un ou chez l'autre pour construire ton mentor qui a un mix de plein de mentors.
Par exemple.
J'aimerais qu'on parle d'un moment, je sais qui est important pour toi, ça a démarré dans ta tête il y a 2 ans, et que tu nous partages la place que ça a pour toi, parce que je suis sûr que ça va toucher plein de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête il y a 2 ans et la place que ça occupe encore aujourd'hui dans ta vie? Et la place que je suis à l'aise de te rappeler.
Alors, je vais me partir un peu avant.
Ouais, vas-y.
Parce que donc médaillé olympique, à l'époque j'ai 27 ans et comme je l'ai dit, c'est presque un projet de vie, quoi. Enfin, un médaille olympique, ça fait rêver tout sportif.
Ouais, c'est les astronautes qui disent « je vais aller dans l'espace » et après tu reviens, quoi.
Et en fait, moi, ce qui s'est passé, comme je le disais à un moment donné, je suis pas vraiment un athlète de haut niveau ou un champion par nature. Je le suis vraiment devenu presque par défaut, par expérience. Et donc, ce qui se passe, c'est quand je suis médaille olympique, pour moi, c'est tellement extraordinaire. J'ai déjà touché un truc qui est intouchable, quoi, que j'envisage même pas d'essayer d'en faire une deuxième, hein, parce que je me dis « oula, le risque de se planter, il est beaucoup trop élevé. Hein, statistiquement, c'est quand même pas un bon plan. » Et surtout, je me dis, j'ai réalisé un truc qui est juste immense.
C'est clair.
J'ai 27 ans et je me dis, putain, je vais faire quoi maintenant, quoi. Donc au début, j'ai quand même essayé de me construire une vie un peu standard, j'ai envie de dire, Canal+, la golf, aller travailler, partir en vacances. Enfin, je sais pas, j'ai essayé de me construire un peu la vie en me disant, ouais, je vais m'éclater là-dedans. Sauf qu'en fait, c'est quand même pas tout à fait ma nature. Et donc là, bébé, il y a 2 ans. Et là, je m'étais toujours dit, en fait, il y a beaucoup de choses que j'avais fait en anticipant le fait qu'un jour j'aurai un enfant. C'est-à-dire que rien que le fait de performer dans mon métier ou autre, c'était en me disant, il faut que je paye les études de mes enfants plus tard ou autre. Et là, d'un coup, ça devenait concret. C'est-à-dire que là, c'était concret. Là, le bébé est là.
Il est né.
Maintenant, c'est parti. Là, c'est la partie, on arrête l'entraînement, maintenant, c'est la compète. Et là, je me suis dit, bon, c'est quoi l'environnement idéal? Donc, au début, j'étais en mode, je vais être le papa à la maison pour être, grandir avec mes enfants, pour moi en profiter, mais aussi qu'eux, ils bénéficient de leurs parents, etc., etc. Puis après, petit à petit, on affinant en me disant, mais ce serait quoi? T'imagines ton père idéal, ce serait quoi? Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même top d'avoir un papa ou une maman qui m'inspire dans ses réalisations, qui se révèle dans ses talents ou dans son génie et de le voir au quotidien. Je me dis, enfin, ce serait juste génial d'avoir grandi dans un environnement comme ça. Et là, je me suis dit, mais si t'es juste papa à la maison et qu'en fait, tu fais rien de tes talents, tu vas pas donner tout ça. Et là, je me suis dit, merde, il va falloir que je me bouscule pour justement aller chercher, tiens, mais c'est quoi peut-être ma zone de génie? Comment je l'exprime? Et autre et autre. Donc, un an après sa naissance, j'ai démissionné du travail dans lequel j'étais parce que je me sentais pas en capacité d'évoluer. Et puis, je suis plutôt réputé comme quelqu'un qui fait bouger les lignes, mais là, il y en avait peut-être trop à faire bouger, je le sentais pas, donc j'ai démissionné. Et là, je suis vraiment en mode exprimer ce que là où je peux vraiment être le meilleur et justement trouver cet équilibre de vie. Autant je m'éclate dans mon job, je performe et je sais être à la maison, passer du temps en famille et autres. Là, c'est vraiment le deal, quoi.
Pourquoi c'est important pour toi là, d'impacter ta fille?
J'aime servir les gens, je crois quand même. Ça fait partie des choses que j'apprécie. Du coup, aujourd'hui, j'ai qu'une fille, mais j'espère que j'aime dire mes enfants, même si aujourd'hui, il n'y a qu'une fille, j'aime dire mes enfants, c'est quand même les premières personnes que j'ai envie de servir du mieux du monde. Je me dis, voilà, c'est aussi un peu la continuité. Je me suis toujours dit, essaye d'inspirer une personne. Si cette personne inspire 3 personnes, ou impacte 3 personnes, en fait, ta vie, elle est réussie, le job, il est fait. Et ouais, les enfants, tu grandis avec eux. Je me dis, toi, là, accompagner des chefs d'entreprise, par exemple, ou des entreprises à performer, c'est bien, tu vois un bout de leur vie, en fait. Là, je me dis, t'es là depuis le début, jusque tant que t'es là, tu peux contribuer. Je me dis, mais c'est un chantier sur la durée. C'est génial, parce qu'en fait, on sait que c'est l'effet cumulé qui fait la différence. Quand t'es champion olympique, ça a commencé la première fois où t'as pratiqué ton sport. Et donc, c'est déjà un long parcours. Et là, c'est encore un parcours encore plus long que je peux vivre avec eux. Enfin, et là, c'est juste un truc de dingue. Chaque jour compte.
T'aimerais te dire quoi au dernier jour de ta vie en pensant à ta fille?
J'aimerais pour moi déjà me dire, ils sont là, ils sont pas là à ce moment-là. C'est OK parce que ce qu'ils vivent, c'est tellement ce qui leur correspond, tellement ça les nourrit et ça nourrit ce qui est autour d'eux que en fait, il n'y a rien qui peut me nourrir plus que ça. Et je me dis, c'est plus important qu'ils soient vivants, qu'ils soient auprès de moi, en fait. C'est aussi le challenge de l'éducation, là. C'est ce côté, forcément, on a envie d'être leur papa. Et en même temps, moi, ce qui me nourrit le plus, c'est... Je disais souvent avant qu'elle naisse à ma femme, je disais, ouais, t'imagines quand on ira la voir en concert à New York. Enfin, voilà, moi, je... En fait, j'ai envie de les voir exprimer ce qu'ils ont de meilleur et d'avoir la chance de vivre avec eux, d'avoir la chance d'avoir vécu la construction, en fait. Parce que comme je disais, quand on parle d'une performance de haut niveau, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de voir tout le parcours. J'adore quand je regarde un film, c'est qu'on voit les détails de la préparation, qu'on voit comme ça a été long, tous ces petits gestes qui ont fait la différence. Et là, si je vois mes enfants à 15, 20, 30, 40 ans qui excellent dans quelque chose, bah, du coup, désolé, hein, vous avez le poids de devoir exceller. Mais bon, en tout cas, voilà, moi, ce que je veux inspirer, c'est ce côté, ça peut être plaisant d'exceller, en tout cas, quand on le fait dans sa zone de génie.
Donc là, si ta fille, on pouvait couper un petit morceau de cette interview et lui donner dans 15 ans, t'aimerais lui dire quoi? T'aimerais qu'elle entende quoi, là, de son père?
Le plus important, c'est donner le maximum de ce qu'on peut donner dans ce qui nous correspond vraiment, dans ce qui est notre zone de génie, dans ce qui nous fait vibrer. En fait, tout le reste, c'est presque encore trop des mots. Je veux dire, tant que tu t'exprimes à fond dans ce qui te fait vibrer, c'est-à-dire quand tu le fais, boah, il se passe quelque chose, et que ça, tu le fais à fond, bah, c'est OK. Parce qu'en fait, ça, quand je le vois chez quelqu'un, c'est bon, je suis liquide. Donc, chez mes enfants, j'ose même pas imaginer.
Juste dire, si elle avait qu'une seule chose à entendre, ta fille, c'est donne-toi à fond dans ce qui te fait vibrer.
Exactement. Et Dieu sait que dans ce monde, c'est complexe. Si je pouvais changer une chose dans le monde, c'est le fait que les uns les autres, on s'entraide à cerner ce qui nous fait vraiment vibrer et aller toujours un peu plus vers ce qui nous fait vibrer. Je veux dire, aujourd'hui, on a des conversations qui sont très orientées. Ouais, mon business, tu comprends, moi, je voudrais augmenter le nombre de salariés, blablabla, blablabla. Enfin, puis j'ai l'air d'avoir plus tendance, enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'entends dans les conversations dans lesquelles je suis, j'entends beaucoup plus la personne qui essaye de me dire ce qui pourrait faire bien à mes yeux, plutôt que d'essayer de me dire ce qui est important pour elle ou éventuellement moi je pourrais apporter quelque chose pour la faire grandir. J'ai une anecdote que ça s'est vraiment révélé avec mon groupe des amis les plus proches. Donc j'ai choisi de faire Titanium et on a eu une discussion autour de tout ça très challengeante. Parce que bah, toujours pareil, c'est qui ce gamin de 29 ans qui va t'apprendre comment on réussit sa vie, etc. Et moi j'ai adoré parce que la discussion elle a tourné autour de leur vision du monde et de ce qui était important pour eux. Non mais tu te rends compte, tu peux pas prendre une décision comme ça sans considérer le fait qu'il faut avoir de la rationalité dans ta décision. Plein d'avis différents et en fait à aucun moment il y en a un qui a vraiment posé la question mais attends, mais en quoi ça te fait vibrer, en quoi ça va te rapprocher de ce que t'aimes vraiment, en quoi déjà t'as le sentiment que tu te sens mieux, enfin en tout cas tu vas plus vers ce qui te fait rêver ou vibrer. Et en fait, c'est pas venu. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont tous amené leur vision du monde, leur projection de ce que eux, ils auraient fait à ta place.
Ouais.
Par amour en plus.
Et clairement.
Et finalement, peu de temps à s'intéresser à pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui te parle là-dedans, comment tu te sens avec ton choix.
Alors qu'en fait, ce qu'on a le plus besoin les uns les autres, c'est d'être challengé sur ce qui nous fait vibrer, pour vibrer toujours un peu plus. Et bah, finalement. S'aimer plus, aimer plus les gens autour de nous parce qu'on fait les trucs qui nous font vibrer.
Alors tiens, du coup, j'ai envie de prendre cette anecdote-là et si on la transpose à la relation parent-enfant, qui est un sujet que j'aime beaucoup, imagine, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette interaction-là quand on est parent et que notre enfant, il vient, il a 15 ans, 18 ans, et dit j'ai envie de réaliser tel rêve, j'ai envie de faire ça, et que peut-être plein de parents pourraient avoir la tendance, tu vois, à projeter ce qui, pour nous, est une forme de réussite ou de bien-être. Qu'est-ce que tu aimerais d'ailleurs retenir de ce moment-là, même pour toi, vis-à-vis de ta fille plus tard?
Bah ça, je le dis déjà à des parents autour de moi. Je dis, qu'est-ce qu'il aime ton fils ou qu'est-ce qu'elle aime ta fille? Et t'en parles avec lui? Qu'est-ce qu'il te dit? Et à chaque fois, ils me disent, soit ils ne savent pas, soit ils ne l'ont jamais demandé. Quand on en discute plus longuement, ils me disent, ah mais c'est vrai que c'est une bonne idée, il faudrait quand même que je lui demande. Quand ils l'ont fait, ils me disent, oh, c'était super le conseil que tu m'as donné, c'est fou, il m'a parlé, d'habitude on ne se parle pas, là, il m'a parlé, il a débité, il m'a dit plein de choses, j'ai senti que... Je dis, bah ouais, en fait, juste tu t'intéresses à ce qu'il aime, d'un coup ça change tout. En fait, on passe notre temps à imposer ce que nous, on aime. Alors qu'en fait, on peut s'enrichir les uns les autres tout simplement en essayant de comprendre qu'est-ce que l'autre aime et en gros, en quoi ce que j'aime, on peut s'internourrir. Mais en tout cas, ça commence beaucoup par « j'aime ça, c'est mon choix, c'est ma vie ». Après, bah, toi, tu aimes autre chose et c'est très bien. Et en fait, il y a beaucoup de conversations où en fait, je vais essayer de te convaincre que ce que j'aime, c'est mieux que ce que toi, t'aimes. Mmh. En fait, c'est ça que j'aime.
Plutôt que de m'ouvrir à la richesse de ce que toi, tu aimes.
Si ma fille devait entendre une seule chose... donne tout ce que tu peux pour faire vibrer encore plus fort ce qui te fait déjà vibrer, bah, de la même manière, moi, je me dis que la meilleure... Enfin, en tout cas, moi, pour l'accompagner, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui... Est-ce qui t'a fait vibrer peut-être un peu plus? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau qui fait sentir une vibration un peu différente de la vibration originelle? Tu vois, plutôt, comment t'explores, comment t'intensifies, comment... Et voilà, ça, c'est... Rien que d'en parler, ça me donne des... Ça, c'est... Là, les gens, ils se révèlent là-dedans, c'est juste extraordinaire.
Et quand tu es connecté à ça, là, du coup, tu peux nous parler du coup de ce que tu fais, de ce que tu as envie de faire de plus en plus pour les entreprises, mais aussi les gens
Au-delà du fait que si je pouvais changer une chose, ce serait ce type de mode de communication. Il y a quelque chose qui m'horripile et qui m'a fait d'ailleurs devenir médaille olympique, ce que j'avais tendance à le voir un petit peu chez mon père à l'époque. C'est ce côté, je suis talentueux et j'exploite pas vraiment ce talent. Et donc au passage, quand je l'exploite pas, bah du coup, j'ai peut-être tendance à peut-être moins m'épanouir. On parlait de Steve Jobs, bah voilà, lui c'est beau parce qu'il exprime ce qu'il a de meilleur en lui finalement, ce qui le fait vibrer. Et donc moi en fait, quand je vois des fois des personnes qui sont isolées ou qui s'enferment dans un job ou si je vais plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que j'aime chez l'entrepreneur, c'est que finalement, il a un rôle social qui est hyper important, qu'on se rend pas compte, mais... Quand on est le chef d'entreprise de 200 personnes, 50 personnes, parfois 1000 personnes, ben en fait, on est une des personnes qui inspire le plus dans l'entreprise. Donc l'impact sur les employés, donc sur leur famille, sur leurs amis, en fait, mine de rien, il est vraiment important. Donc moi, je me dis, je rêve de voir des entrepreneurs qui, justement, sont là-dedans, qui font ce qui les font vibrer et en fait, qui ne font pas une entreprise pour faire du chiffre ou pour faire... Enfin, sauf si c'est leur délire, d'ailleurs, il y en a, c'est leur délire et c'est tant mieux. Mais en tout cas, ils ne fassent pas une entreprise juste pour briller haute, mais qu'ils le fassent pour vivre ce qu'ils ont besoin de vivre et que derrière, ça nourrisse leur famille, ça nourrisse leurs enfants, que ça nourrisse encore plus leurs salariés, leurs actionnaires. Voilà, et en fait, moi, du coup, j'aime accompagner des chefs d'entreprise pour ça, ou en tout cas des entreprises, parce que je dis souvent, ça passe au départ peut-être par lui, mais pas forcément. Parce qu'en fait, quand l'entreprise se révèle pour ce qu'elle est, mais en fait, là, quand on l'imagine à l'échelle d'une personne, à l'échelle d'une entreprise, vous imaginez, enfin, t'imagines même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que d'un coup, c'est des personnes qui interagissent, qui vont connecter des talents, qui vont travailler différemment et c'est une toute autre énergie. Du coup, c'est des gens qui rentrent chez eux avec la banane, quoi. Et du coup, l'impact, il est partout. C'est quand même plus sympa avec ta boulangère. Il y avait une pub à l'époque, quand j'étais plus jeune, parce que vous êtes plus heureux, donc votre voisin est plus heureux, donc le chien de votre voisin est plus heureux, donc le chien du voisin est plus heureux, donc le voisin du voisin du voisin est plus heureux. Enfin, c'est... Après, cercle vertueux, ouais.
Comment, s'il y a une personne qui se dit « j'ai envie de performer au niveau et j'ai envie de travailler avec Benjamin », comment elle peut faire?
Bah, elle m'appelle déjà. L'avantage, c'est que Benjamin Boukpeti, c'est assez facile à trouver sur Google et à se connecter avec moi. Okay. J'ai arrêté de ne pas répondre à mes Facebook et autres. Maintenant, je réponds.
Ok, donc par Facebook, on peut…
Facebook, LinkedIn, je suis assez accessible, ouais.
Cool. Si t'avais, pour terminer, s'il y avait une personne qui se pose la question en ce moment, tiens, de… faire un séminaire ou pas, t'aimerais lui dire quoi là?
Moi, il y a deux types de... Je travaille beaucoup sur comprendre les différents profils, parce que je comprends qu'on est tous différents et que mes leviers ou mes moteurs ne sont pas les mêmes que les autres. Donc avant, j'aurais dit un truc en pensant que la terre entière
avait
le même levier, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc déjà, je dirais, moi, ce qui me concerne, c'est l'intuition. Ça veut dire, si je le sens, que ça me prend aux tripes ou en tout cas que... Titanium, j'ai pris la décision en moins de 5 minutes. Hein. Je m'étais dit, si c'est en dessous de ce prix-là, j'y vais. Bon, ben voilà, c'était en dessous de mon plafond, donc j'y suis allé, ça a pris moins de 5 minutes. C'est-à-dire que l'intuition, à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi. On comprendra parfois longtemps après, si ça nous dit vas-y, vas-y. Parce que même si on ne comprend pas sur le coup, c'est important d'y aller. Après, il y a ceux qui vont être, par exemple, plus justement performeurs, actions. J'ai envie de performer, mais les actions que je mets en œuvre, ça ne donne pas forcément les résultats que je voudrais. Je voudrais avoir une autre efficacité dans ma vie. Là, je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que là, il y a quand même plein d'outils qui amènent des résultats qui sont hyper concrets. Enfin, c'est quand même ciblé, et pour le coup, ouais, c'est très parlant. Du coup, là, je parle sur deux profils assez extrêmes. Normalement, au milieu, vous devriez à peu près vous retrouver. Mais donc, il y a pour moi, soit le profil vraiment, je veux actionner des choses, et voilà, là ça permet de vraiment le vivre. Soit le côté je suis plutôt intuitif et je sens que ça me parle, et dans ce cas, il faut y aller. Et après, pourquoi un séminaire plus que les vidéos? Parce que c'est aussi une question qui se pose, hein, parce que quand tu as autant de vidéos gratuites, c'est une vraie question qui se pose. Moi, le levier à l'époque, c'était de me dire ok, j'ai plein d'éléments, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, quand tu as vécu quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le revivre. Dit autrement, dans les séminaires, on va toucher de la gratitude comme si on le fait tout seul, bah, peut-être qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on ne se rend pas trop compte. Là, le fait d'être accompagné, d'être dans une énergie, d'être dans cette stimulation-là, ça permet d'atteindre un niveau qu'on ne s'imagine pas. Et après, du coup, l'avantage, c'est quand on rentre chez soi, bah, on sait qu'on peut s'entraîner, on sait qu'en fait, un jour, peut-être, on y arrivera, on pourra arriver là. Mais sinon, c'est quand même, parce qu'on sait, le début de l'entraînement, c'est souvent laborieux. On a l'impression qu'il ne se passe rien, on a tendance à se flageller. Et là, du coup, d'avoir touché du doigt des choses plus concrètes, d'avoir rencontré des gens qui le vivent, bah, ça fait quand même une vraie, vraie différence. Donc quand on veut passer en mode « je veux des résultats concrets dans ma vie », C'est le bon moment.
Cool, merci en tout cas pour ton énergie. Tu m'as touché quand t'as parlé de ta fille. Ça a une vraie puissance quand t'en parles. Merci à toi, Benjamin.
Merci.
Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.